Intéressé à l'histoire.
Archives. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine pour l'émission Archives, une émission qui ressort les vieux dossiers du placard. Ce mois-ci, en plein hiver, je vous propose une émission sur la guerre d'Algérie. Non pas pour vous réchauffer, car ça peut faire froid dans le dos, mais dans le but de compléter cette série réalisée par Gilles Margeran, journaliste à Radio Sainte-Afrique, et Jean Glacet, historien, sur la guerre d'Algérie. Le déménagement a eu des bons côtés. Ainsi, la bande que je n'avais pas été en mesure de vous proposer l'an dernier et qui est le troisième opus d'une série de 5 émissions est enfin réapparue. C'est donc un grand plaisir pour moi de pouvoir vous laisser en compagnie de Gilles et de Monsieur Glacet pour une grosse demi-heure afin d'écouter le maillon manquant à ce sujet. Vous pouvez désormais retrouver la série au complet sur notre site internet. La guerre d'Algérie, 3e.
Troisième volet de cette série sur la guerre d'Algérie avec Jean Glacet qui a vécu sur place cette période de notre histoire en tant qu'appelé du contingent dans les transmissions et avec Christian Fourmand, pied noir, né à Mascara. Si beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette Algérie des années troubles ou ont oublié cette époque difficile, tout le monde, en revanche, se rappelle de la célèbre tenue léopard des paras et du mythe guerrier des centurions. Célébré notamment par les médias et le cinéma, c'est en Algérie et notamment pendant la bataille d'Alger que tout a commencé. Mais tout d'abord, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté les deux épisodes précédents, un rappel bref des événements qui ont soulevé l'Algérie. Alors, Jean Glacet, on va vous demander de faire un petit résumé.
Eh bien, le petit résumé va être assez court pour comprendre les événements qui vont suivre. En fait, tout a commencé le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le 1er mai de l'année 1945 est donc marqué à Alger par des manifestations organisées par des nationalistes avide d'indépendance. La Casbah descend dans la rue. Mais immédiatement, la manifestation va être réprimée et des ratonnades vont durer une bonne partie de la nuit. Quelques jours suivants, des slogans apparaissent sur les murs. Et ces slogans disent à peu près ceci. Rien ne transformera un arabe en français. Musulmans, prenez le maquis. 8 jours plus tard, ce sont les événements de Sétif, exactement le 8 mai 1945. Un policier qui perd son sang-froid tire sur la foule et brusquement c'est l'escalade au nom de El Jihad, donc la guerre sainte. Les colons, qui ont eu des centaines de morts dans leur famille, décident donc de régler cette affaire eux-mêmes. Et il va y avoir, à l'occasion de ces règlements de compte, des milliers de morts. Le général de gendarmerie Thubert, qui est envoyé sur place pour enquêter, va remettre un rapport au résident général en Algérie. Ce rapport est tellement compromettant pour tout le monde qu'il est immédiatement passé à la moulinette. Et 9 années vont s'écouler, sans guère de problème, jusqu'au 1er novembre 1954, où un caïd pro-français et 2 instituteurs sont assassinés. Monsieur et Madame Monroe et le caïd Hadj Sadok, dans les gorges de Tiganimine, entre Batna et Arris. Jacques Soustelle, qui arrive sur place, est mandaté pour préparer les réformes. Il arrive donc fin janvier 1955 et immédiatement, les effectifs militaires sont portés à 100 000 hommes, mais les attentats se multiplient de part et d'autre. Les Douars pro-français sont exterminés par les révolutionnaires. Et deux massacres horribles seront perpétrés à El Alia, un centre minier, et dans un douar appelé Mecha Kasbah. Les Algérois vont chercher un chef et vont le trouver en la personne de Joe Ortiz, qui est un patron de bar, une boîte de nuit. Et Soustelle, qui se sent lâché par le gouvernement, est immédiatement remplacé par Robert Lacoste, qui réclame, séance tenante, 200 000 hommes de plus. Les rappelés arrivent. Et brusquement, c'est l'embuscade de Palestro. Et on commence à parler de Bijard et de Massu, qui vont arriver et entrer en scène. Les chefs FLN s'installent au Caire, et lors du voyage vers Tunis, Ben Bella, Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachraf seront arrêtés suite à une affaire montée par les services spéciaux. Mais malgré ça, le FLN va investir la Casbah où résident 70 000 personnes. Devant les attentats qui continuent, le gouvernement général demande donc au para de mettre de l'ordre dans ce foutoir.
Oui, c'est là donc où on se rappelle, bon, il y a eu le film Les Centurions, et c'est là où on voit apparaître ce type de soldat, parce qu'avant c'était plutôt le style bidasse, un petit peu pas très moderne, quoi. Alors que là, c'est un nouveau type de soldat qui arrive, quoi.
Absolument, le type bidasse malfagoté, avec les pantalons trop courts ou trop longs.
Des armes qui datent de la dernière guerre.
Qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. De toute façon, non seulement nous, en grande partie, nous étions équipés d'armes de la Seconde Guerre mondiale, mais les Harkis étaient équipés de Lebel de la Première Guerre mondiale. Et c'est au cours des différents ratissages et des différentes embuscades que le militaire de base est devenu un véritable Rambo. On avait un armement hétéroclite, mais extrêmement puissant. Chacun avait son armement personnel. Certains étaient armés de pistolets mitrailleurs Thompson, qui avaient été récupérés sur les Fels, du 11-43. Alors vous voyez le morceau, c'est autre chose que du 9 mm. D'autres étaient équipés de pistolets automatiques Beretta, d'autres de fusils de chasse automatiques à canon scié, enfin c'était, et de grenades. Alors il y en avait des caisses et des caisses, et lorsque les militaires étaient libérés, ils cédaient pour deux fois rien tout leur armement à ceux qui arrivaient, car il était hors de question de partir avec ça sur le bateau. Certains ont essayé, tout simplement parce qu'ils étaient chasseurs et voulaient garder des armes pour aller à la chasse. Ceux qui étaient pris arrivent à Marseille, demi-tour et 6 mois de forteresse, à Sédiféruche. Et la forteresse, j'y suis allé parce que je faisais un convoi d'armes et de munitions par mois à la forteresse de Sidi Féruche. C'était le bagne, exactement comme à Cayenne.
Donc on voit arriver les tenues léopard, voilà. Et le célèbre Massu et Bijard qui commandent.
Célèbre, il l'était.
Oui.
Il l'était. J'ai eu l'occasion au cours de différents ratissages, étant opérateur radio, de porter des messages, c'est ainsi que je les ai côtoyés un certain temps, de porter des messages à la fois Bijard, Massu et Jean-Pierre. Ils étaient tels qu'ils sont décrits. Tous les matins, Bijard, c'était le footing, avec ses petits gars, comme il dit toujours, ou il disait quand il était ministre. Et il couchait, dormait avec eux, sur des lits picots, des lits de camp. Et ils étaient adulés, ces généraux, et obéis au doigt et à l'œil. Donc voilà, Bijard et Massu entrent en scène. Et au début donc de l'année 1957. En fait, tout le monde en a assez, surtout Alger, de ces attentats aveugles. Et devant la pression des élus algérois sur le gouvernement général, eh bien, Robert Lacoste va donner carte blanche au général Massu et à ses léopards, puisqu'ils étaient tous habillés en tenue léopard. Avec comme objectif de prendre le contrôle de la Casbah. Et c'était une véritable fourmilière, la Casbah. Donc, tous les léopards, en une seule nuit, vont s'installer sur les toits, tout gadriers, et dans les faubourgs d'Alger, dans une villa un peu isolée, un commando très spécial, sous les ordres du commandant O, ancien d'Indochine, du SDEC, c'est-à-dire les services secrets, et du 5e choc, c'est-à-dire une unité d'élite qui était au service du SDEC pour des opérations très, très délicates. Donc, le 14 janvier, la Casbah est investie, on arrête 1500 personnes, on interroge jour et nuit, Et Godard et Bijard, Marcel Bijard, le général Godard, entrent en scène. Et brusquement, Salan va être victime d'un attentat. Grâce à une machine infernale constituée de tuyaux de poêle, on lance une roquette dans son bureau. Et heureusement pour Salan, le général Salan n'était pas dans son bureau, mais son aide de camp va être tué. En réalité, c'était une affaire qui était montée par les activistes, les nationalistes pieds noirs, avec sûrement Joe Ortiz à la tête, pour accélérer la répression envers le FLN. Ils trouvaient que ça piétinait, que ça allait passer vite. Mais les attentats continuent, et brusquement, ça va être l'attentat du bar de l'Automatique, en plein centre d'Alger, et du Coq Hardy. Et les bombes qui étaient artisanales, fabriquées dans des boîtes d'huile SO d'un litre, posées par des femmes qui étaient habillées à l'européenne, qui étaient donc dévoilées, qui n'avaient plus le haïk blanc, pulvérisent le verre, et chaque morceau de verre est un véritable projectile. Les gens sont littéralement hachés. Bon, on passe la casbah au peigne fin, et on arrête, on interroge, et il faut vite, vite exploiter les renseignements, peu importe les moyens. Officiellement, les autorités ferment les yeux, ou presque. On proteste un peu auprès de Massu, de Bijard, mais d'un côté, officiellement, on proteste, mais de l'autre côté, les décideurs algérois, eux, veulent activer la répression pour éliminer complètement le FLN de la Casbah et éviter tous ces attentats. Tous les renseignements vont donc être exploités. Et un immense organigramme est mis en place, et enfin Ben Ridi est arrêté. Il sera retrouvé pendu dans sa cellule, version officielle. Didouche, Mounran et Ben Boulaïd étant morts, Bitat, Boudiaf en prison, Alger, il n'y avait plus qu'un seul meneur dans la Casbah, Yassef Saadi. Alors on se dit, pour un seul, on finira bien par l'avoir. Mais Massu, qui s'aperçoit que ces hommes commencent à prendre goût à ce genre d'affaires, décide de retourner dans les Djebel avec Bijar. Il faut leur donner de l'exercice, et donc ils retournent dans les Aurès.
Mais là, en fait, en tant qu'opération militaire, c'est une opération militaire réussie, quoi. Je veux dire, ils sont arrivés à effectuer leur mission, quoi.
Absolument, ils arrivent à éliminer. Donc, les meneurs, les poseurs de bombes, en fait, ils n'étaient pas très nombreux. Il y a en tout une dizaine de personnes qui tenaient toute la Casbah et qui programmaient les attentats et qui programmaient les objectifs où on devait poser les bombes, qui étaient surtout donc des boîtes de nuit, des bars à la mode, etc.
Christian Fourmand, vous les avez vus arriver comment? Parce que ces léopards, c'était plus crédible, je veux dire, vous vous sentiez plus protégé par cette armée un peu spéciale?
Moi, je n'étais pas en Alger, donc les léopards, je ne les ai pas vus directement, mais dans le bled, il y avait aussi les commandos, qui étaient un peu basés sur le même principe, c'est-à-dire sur le militaire. Le militaire qui n'était pas le militaire, disons, le bidas, quoi. C'est-à-dire que...
Là, c'était l'armée d'élite, voilà,
l'armée
c'était
d'élite
des gens entraînés.
Basée sur sur le principe, donc, de l'armée, avec l'uniforme, le prestige de l'uniforme, etc. Bon. Et c'est vrai que les méthodes qui sont appliquées sont efficaces. Mais Monsieur Glacier disait tout à l'heure que ils y prenaient goût. Moi, je pense qu'ils l'ont fait, ce boulot de policier, finalement. Hein. Les parachutistes qui avaient l'habitude de se battre dans le bled, donc avec une armée en face, ou du moins avec des combattants en face qui les respectaient, quoi. Hein. Parce que malgré ce qu'on peut dire, il y avait quand même un certain respect pour le FLN combattant, pour l'ALN. Voilà,
c'était beaucoup plus traditionnel, traditionnel combat, alors que là, on se retrouvait
avec des gens qui menaient la terreur dans les villes, avec des bombes qui explosaient, avec il y avait 2-3 bombes qui explosaient par jour, qui faisaient pas mal de morts. Et là, il fallait aller vite, il fallait donc trouver le renseignement rapidement. Et donc, il fallait interroger les suspects, etc. Et bon, et ce boulot de faire des fichiers, etc., comme on l'a dit tout à l'heure Jean Glacet, et ce boulot, finalement, n'était pas très bien accepté par les léopards, parce que, bon, à force, c'était du boulot de policier, quoi.
Mmh, on leur faisait faire
un travail. Et donc, c'est pour ça, je crois que, d'ailleurs, quand la soupape a menacé d'exploser, qu'on les a renvoyés dans le bled pour aller un peu, disons, refaire de, de l'anti-FLN plus traditionnel. Quoi.
Oui, un combat beaucoup plus traditionnel. Oui.
Donc, la bataille d'Alger va reprendre avec une série d'attentats menés par le FLN, parce qu'il en reste un, et il s'active énormément. Et celui qui va tout déclencher, c'est l'attentat du casino de la Corniche, où c'était une boîte à la mode, une discothèque, comme on pourrait dire maintenant, où tous les jeunes se rassemblaient, le samedi et le dimanche, ils allaient danser. Et cet attentat va faire 8 morts et 80 blessés. Et aux obsèques, alors, les ratonnades se succèdent pendant toute la nuit. Bijard, le colonel Bijard et le colonel Jean-Pierre sont donc rappelés du bled afin de mettre de l'ordre, comme a dit le résident général, dans ce foutoir. Et ils recommencent donc à quadriller la casbah, et on arrête, on interroge, on surveille. Et puis subitement, alors, deux paras sont assassinés par le FLN. Alors là, c'est terrible, il y a une répression formidable, et ça a été baptisé l'affaire de la rue du Ruisseau. Parce que dans la rue du Ruisseau, il y avait un bain turc, et les paras foudragent, sur le coup de la colère, presque sans ordre, mais ils ont quand même sûrement après été couverts, ils sont entrés dans ce bain turc et ils ont tiré sur tout ce qui bougeait, en répression. Et Bijard et Massu s'installent à nouveau dans la casbah. Ils reprennent leur organigramme avec toutes les rues, les passages, les sentiers, et ils dorment au pied de l'organigramme. Ils sont réveillés à toute heure du jour et de la nuit, et ils ont d'ailleurs, les sous-officiers et les officiers ont ordre de les réveiller chaque fois qu'il y a un renseignement, et immédiatement, on se repère sur l'organigramme et on décide des opérations et des perquisitions. Et ça marche. Et subitement, on va capturer Yacef Saadi. Et pour y arriver, tous les moyens étaient bons. Et il faut faire vite, car les attentats se succèdent les uns les autres, et les Européens sont excédés et font pression auprès du gouverneur général.
Jean Glacet, historien.
Et Robert Lacoste donne des ordres, et le fameux commandant Haut et son équipe dans la villa des environs d'Alger interrogent jour et nuit.
C'est ce qu'on appelait la Villa des Roses, non ? Ça n'a rien à voir ?
Non, je ne crois pas que c'était la Villa des Roses, mais j'en suis pas sûr. Là, je n'ai pas d'informations là-dessus.
D'accord. Ouais.
Et donc, on va commencer à accuser ce qu'on appelait les corvées de bois. Parce que, eh bien, il y a des gens qui ne supportent pas d'être interrogés et il faut bien faire quelque chose.
Il faut dire quand même que la torture, donc, fonctionnait pas mal, quoi.
On suppose. Mm.
Gilles Margeron.
Il faut dire que, du point de vue gouvernemental, il n'y avait aucune directive claire. Et donc, bon, les militaires, on leur demandait d'être efficaces. Hein, les attentats se répétaient. Bon, et on sait ce que c'est que les bombes. Hein, il y a eu, par exemple, lorsqu'à Paris, hein,
bien sûr,
il y a eu ces bombes qui ont explosé. On a vu l'ambiance que ça met dans une ville. Et donc, il fallait aller vite. Il fallait être efficace. Il fallait donc trouver très vite les poseurs de bombes. Mais, du point de vue des moyens, on ne donnait pas de directives claires. Alors, on laissait, il y avait carte blanche, et c'est vrai que les interrogatoires devaient être efficaces. On devait employer, donc, peut-être pas tous les moyens, parce que Massu avait dit quand même qu'il fallait appliquer des méthodes qui restaient, enfin, je ne me rappelle plus l'expression exactement, mais enfin, il a voulu dire qu'il fallait faire une guerre propre, mais dans l'application ensuite, bon,
ça peut être interprété.
On laissait toute latitude pour être efficace.
En fait, les interrogations n'étaient pas le propre de l'armée. Moi, j'étais dans une compagnie où on avait une petite équipe chargée d'exploiter les renseignements, mais quand ils arrêtaient des gens supposés appartenir au FLN, ça s'arrêtait là, leur travail s'arrêtait là. Ensuite, ces gens étaient conduits à Alger, et ensuite, les interrogatoires dépendaient de l'armée de métier des anciens qui avaient fait l'Indochine et qui avaient sûrement appris auprès des Viet toutes les subtilités des interrogatoires dits musclés. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été confronté à ce genre d'interrogatoire. Ce n'était pas notre travail. Le travail de l'armée d'appeler, ce n'était pas ce travail-là. Ça, c'était l'affaire des commandos dits spéciaux.
Des spécialistes.
Voilà. Et d'ailleurs, ça va tellement bien dérailler que rapidement, ce fameux commandant haut, à la demande des généraux, est rappelé en métropole et on n'entend plus parler de lui. Mais il faut quand même arriver à éliminer les meneurs FLN de la Casbah. Et alors, on va avoir une idée géniale, c'est-à-dire qu'on va enrôler d'ex-Fellaga, des gens qui sentent que ça ne marche pas, ils sont mal habillés, ils n'ont pas d'armes, ils sont perdus dans le bled, on ne s'occupe pas d'eux. Et on va enrôler donc des ex-Fellaga dans le but d'infiltrer la Casbah. Et ils sont habillés en bleu de chauffe. Et on va les appeler les bleus de chauffe. Et ils vont se noyer dans la foule, observer. Et rapidement, on va trouver les dernières caches, donc des derniers poseurs de bombes. Et le dernier qui était, Ali Lapointe, surnommé Ali Lapointe, s'est réfugié dans une cache qui a été minée par les léopards et il va refuser de se rendre. Et comme la mèche a été allumée, qu'il avait 2 minutes pour se rendre, il va sauter avec la cache. Et c'est ainsi qu'une fois pour toutes, la bataille d'Alger va être gagnée et on aura eu jusqu'au dernier poseur de bombes. Mais rapidement, donc, les léopards retournent dans le Djebel pour faire du ratissage et se livrer donc au combat contre les FLN. Mais en France, ça va mal et c'est la crise car les gouvernements se succèdent les uns après les autres. Certains tiennent à peine une semaine. C'est le véritable chaos politique. Et puis au sein de l'armée, elle sent que l'armée qu'elle n'est plus soutenue. Ces gouvernements sont plus préoccupés à arriver au pouvoir ou à s'y maintenir que de s'occuper de l'armée qui se sent un peu abandonnée. Et donc, il commence à y avoir des mouvements clandestins qui sont un peu animés par des civils et des colons qui voudraient s'opposer aux politiciens de la métropole.
Oui, je voulais dire que parallèlement, après la bataille d'Alger, qui avait été donc une victoire militaire, enfin une victoire vis-à-vis du FLN. L'idée, c'était de gagner aussi dans le bled. Or, dans le bled, le gros problème, c'était que l'armée ne pouvait pas être présente partout. Et c'est là qu'on a vu fleurir les SAS. Les SAS, dont le but était d'occuper le terrain et de faire ce qu'on appelait la pacification. Alors, ces officiers SAS, ils avaient un rôle administratif, hein. Ils avaient un rôle, ils avaient, disons, le rôle de maire, d'instituteur, d'administrateur au niveau local, et officier de renseignement aussi, bien sûr. Et on voulait faire un peu la même chose dans le bled, c'est-à-dire extirper le FLN, de manière à ce que le peuple ne soit plus pris en otage. Voilà, ça c'était le but de cette pacification. Bon, et parallèlement, donc, sur le terrain, partout, il y avait des écoles qui étaient créées, des soins qui étaient donnés, de la nourriture, on faisait des travaux d'aménagement, on construisait des maisons, on regroupait les gens pour justement qu'ils ne soient plus soumis au FLN pendant la nuit, et de manière à pouvoir mieux surveiller. On armait même les indigènes donc, pour qu'ils se défendent. Et dans ces villages de regroupement, donc, peu à peu, se sont établis des liens entre l'armée et le petit peuple du bled. Donc, le FLN qui était un peu le poisson qui était sorti de son eau, commençait à trouver les choses très dures. Et à ce moment-là est arrivé le problème de Sakiette, où l'avion a été arrosé par des FLN qui étaient en Tunisie. Et à la suite de sa quiète, il y a eu une répercussion. D'abord, il y a eu une riposte de la part de l'armée française, de l'aviation française. Et à la suite de ça, il y a eu un mécontentement général au niveau international, une réprobation générale. Et c'est là que le FLN a senti qu'il pouvait regagner la victoire, enfin regagner l'affaire qu'il ne pouvait pas gagner sur le terrain à la suite de la bataille d'Alger et à la suite de la pacification dans le Bled, qu'il pouvait regagner sur le niveau, au niveau international. Et au niveau du gouvernement, on était bien obligé de tenir compte des avis qui avaient été émis à l'ONU. Et c'est là que la faiblesse de ce gouvernement, de ces politiciens, commence à peser lourdement sur l'armée, qui voit encore les politiciens qui vont lâcher l'Algérie, comme ils ont lâché ailleurs, à Suez, en Indochine, etc. Et c'est là que commencent les prémices, peut-être, du 13 mai.
Oui, sûrement, tout ça a rapport. Et ça quiète, en fait, les militaires ont voulu faire du zèle. Ils ont interprété les paroles du gouvernement général à leur façon, mais ils n'attendaient que ça. Et puis, ils ont réglé ce problème des camps Fellaga qui se trouvaient de l'autre côté. Mais pour en revenir à notre affaire, donc, c'est vrai que ça se prépare, mais en décembre 57, sous le gouvernement Félix Gaillard, le ministre de la Défense, c'est Chaban Elmas. Et il décide d'installer une antenne à Alger afin d'être informé en direct sur les événements. En réalité, on veut préparer le retour du général de Gaulle. Et tout ça, c'est programmé d'avance. Et une équipe donc de politiciens de haut niveau prépare son retour. C'est Michel Debré, Georges Pompidou, Frey, Guichard et Chaban Elmas. Chaban Elmas a un conseiller, un nordiste, grand amateur de guerre subversive. Il s'appelle Léon Delbecq. Et Léon Delbecq qui arrive à Alger dans l'avion, il rencontre quelqu'un dont nous avons déjà parlé l'émission précédente, un vrai centurion, le commandant Jean Pouget, qui avait redressé tous ses rappelés, qui ne voulait ni d'Eiffel, ni de l'armée, ni dégradé, ni rien du tout. Donc Jean Pouget, qui est écœuré justement par les événements du Bled et la façon dont l'armée est traitée par les politiques, rentre en France, il veut démissionner. Et lors de la conversation avec Delbecq, ce dernier décide, avant qu'il pose sa démission, de le présenter à Chaban Elmas. Et subitement, il se rend compte, Jean Pouget, qui va à nouveau avoir un rôle à jouer, efficace, et il décide de faire partie de l'équipe, qui va donc s'installer sur les hauts de El Biar. Et son rôle de cette équipe, c'est de préparer les décideurs algérois à admettre ou à voir à la personne du général de Gaulle l'homme de la situation. Et petit à petit, en fréquentant les salons des décideurs, etc., tout le gratin de l'Algérois, ils vont prendre des contacts pour préparer cette affaire en douceur. Et avec Jacques Soustelle, de Sérigny, de l'Écho d'Alger, Tommaso, on va échafauder un projet, le projet des fameux comités de salut public. Mais en avril 58, il y a un roulement qui grippe. Le gouvernement Félix Gaillard tombe 4 mois avant la date prévue, parce qu'on pensait qu'il aurait duré jusqu'à une certaine période, jusqu'à l'automne. Mais il tombe avant. Et en catastrophe, il faut trouver une solution de remplacement. Et la fameuse équipe organise une manif afin de tester les réactions des Algérois. C'est une répétition. Les Algérois, ils n'en savent rien. Ils sont manipulés. C'est toute l'équipe qui essaye. Alors, on lance un mot d'ordre et on leur fait crier « l'armée au pouvoir ». Alors, on teste. Et le 10 mai 58, ça aussi, c'est prévu, Robert Lacoste quitte Alger pour venir à Paris, rendre compte des événements. Et brutalement, donc, le 13 mai, une manifestation monstre est organisée et le gouvernement général est occupé.
« Donc, c'est le 13 mai 58, c'est ça ?
C'est 13 mai 58.
C'est cette fameuse manifestation dont beaucoup se souviennent.
Ah oui. Et c'était quelque chose qui a marqué, là. C'était un élan extraordinaire du peuple algérois qui a dit, cette fois, ça y est, nous allons prendre notre destinée en main. Et donc, on crie, Algérie française, l'armée au pouvoir, Massu est acclamé. Et on crie Massu au pouvoir, tant qu'à faire, pourquoi pas. Mais Massu, lui, c'est un militaire dans l'âme. Service, service. Là, la révolution, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Et il est obligé de faire face quand même. Et la populace va fraterniser avec les paras. Parce que ça devient un symbole, ces fameux paras qui sont partout et qui vont être les sauveurs de l'Algérie, en fin de compte.
Oui, puis devant la réussite de la bataille d'Alger, ils pensaient que c'était la solution.
Oui, c'est ça. Hein, c'est parce que l'armée avait finalement gagné au niveau d'Alger, dans les villes. Elle avait gagné dans le bled en ralliant tout un grand nombre de musulmans à la cause finalement de l'Algérie française. Et donc, il ne fallait pas perdre politiquement. Alors, l'armée, c'était finalement le garant de cette réussite. Et donc, la solution, ce serait peut-être effectivement que devant les gouvernements qui se succèdent, qui tombent, devant la mollesse des politiciens, c'est peut-être effectivement que l'armée prenne le pouvoir, ou du moins prenne la destinée de l'Algérie.
Oui, Christian Formand a absolument raison. Il n'y a que l'armée pour les sauver. Et donc la foule est là, menaçante, on hurle, on crie. Et Massu sent que ça va tourner au désastre, il va falloir tirer pour les calmer, ou jeter des grenades, ou faire quelque chose. Et quand il arrive pour essayer de les calmer au balcon du gouvernement général, il n'a pas le temps de placer un mot, il est acclamé. On hurle, Massu au pouvoir, Massu au pouvoir. Et subitement, il annonce, après s'être concerté avec ses colonels et ses officiers supérieurs, il annonce donc la création des fameux comités de salut public. Et à Lacoste, qui est à Paris, lui, à l'Élysée, téléphone et demande au téléphone, alors Massu, qu'est-ce que c'est un coup d'État? Et Massu, il dit non, ce n'est pas un coup d'État, mais il faut que je trouve une solution afin d'éviter de tirer sur la foule. Le général Salan va recevoir des ordres de Paris, mais il ne dit rien à personne. Et en fait, il a tous les pouvoirs pour gérer la situation. Et on parle de faire venir la 7e DMR, c'est-à-dire la 7e division de mécanique rapide, et j'en étais. 57e bataillon, 7e division de mécanique rapide. Tous les camions n'étaient pas en jaune. C'était ceux qui allaient dans les Aurès et dans les espaces pré-sahariens. Et moi, je me souviens, on était très inquiets. On se demandait ce qui allait arriver, parce qu'on sentait qu'on était au bord de la guerre civile. Bon, Salan, il refuse. Et l'antenne d'Alger, la fameuse antenne mise en place par Chaban Delmas, il faut qu'elle trouve une solution. Elle évalue la situation, et brusquement, tout le monde se décide. En fait, ils ne sont que deux à décider. D'un côté, Delbecq, arrivé au garde-à-vous, se met aux ordres du général Salan, au gouvernement général, et le fameux commandant Pouget va voir Massu pour essayer de le raisonner. Et il lui explique, enfin les deux expliquent, c'est De Gaulle qu'il nous faut, il faut demander à De Gaulle d'arriver au pouvoir. C'est la confusion un peu partout, on hésite, sur le forum, la foule est là, qu'elle attend. Et les paras qui montent la garde en bas sont littéralement adulés. Les filles leur font les 12 yeux. Et ce sont les sauveurs quand même. Hein. Et ça va être la nuit de tous les excès. On chante, on boit, on s'embrasse. Les paras sont appelés. Hey, « Fils, tu viens boire un verre avec nous ?» Et brusquement, un télégramme est rédigé pour appeler le général de Gaulle au pouvoir, Salan étant d'accord avec Massu. On va donc envoyer ce télégramme. Et Massu va apparaître au balcon du gouvernement général pour annoncer l'expédition du fameux télégramme pour calmer la foule. Et à peine a-t-il parlé que la foule hurle « Vive Massu, vive Massu, vive de Gaulle !» Et voilà, on commence quand même à trouver une solution à cette situation.
Oui, bon, je crois qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était monté, et notamment, bon, il y avait d'une part les étudiants algérois avec leur association, et d'autre part les gaullistes, par l'intermédiaire de cette fameuse antenne qui avait monté, mais il n'empêche quand même que il y avait quand même une résonance très forte au niveau du peuple, aussi bien d'ailleurs, d'abord au niveau de l'armée, elle pensait qu'elle avait gagné sur le terrain et qu'on n'allait pas lui enlever cette victoire. Il y avait aussi les musulmans qui, eux, avaient fait cause pour une nouvelle Algérie où ils auraient plus de droits. Et ils entrevoyaient qu'on allait dans cette direction. Et puis, il y avait les pieds noirs pour qui c'était effectivement c'était une solution pour ne pas abandonner l'Algérie. Donc, il y a eu une résonance quand même phénoménale au niveau du peuple. Et cette foule qui venait tous les jours sur le forum, parce que ça durait quand même un certain temps, elle venait parce qu'elle y croyait, quoi. Hein.
Et oui, la foule, 600 000 personnes avaient été estimées à un moment. Vous imaginez, autre chose encore que les manifs qu'il y a eu à Paris il y a quelque temps. Donc le gouvernement vient de tomber, Flimelin, qui succède à Félix Gaillard, subitement limite les pouvoirs de Salan juste à l'Algérois. C'est le blocus, les bateaux ne partent plus, n'arrivent plus. Moi, je me souviens, on a été un mois sans courrier, on n'avait plus aucune nouvelle de métropole, tout était arrêté. On ne savait plus où on allait. Et donc, le mercredi 14 mai 58, le général Salan désigne des colonels pour occuper les postes stratégiques donc de la ville d'Alger afin d'éviter tous les excès. Il y a le colonel Godard, Trinquier, Ducasse, au camp d'Aintaya, où on mettait souvent les Fellaga, on va enfermer les réactionnaires, on va y mettre Gisèle Halimi et Eugène Marouani du Monde, qui protestaient. Le général de la Bourdonnais lui surveille tout ça, et le général Salan téléphone à Paris au président du Conseil pour commenter les événements. Dehors, la foule est toujours là, puisque, comme dit Christian Fauman, ça a duré plusieurs jours, hein, on se relaie jour et nuit. Et pour essayer de les calmer, Delbecq apparaît au balcon du gouvernement général et annonce que le général Salan va faire une déclaration. Le général Salan s'adresse donc aux Algérois et affirme que l'Algérie restera française, il fait une petite allocution, et termine en criant « Vive la France, vive l'Algérie française !» Il fait un pas en arrière, comme si c'était terminé, et quelqu'un lui souffle « Vive de Gaulle !» Et alors il fait un pas en avant, « Vive de Gaulle !» La foule acclame, hurle, « Vive l'armée, vive Salan, vive de Gaulle !» Mais à Colombey, les deux églises, le général est informé minute par minute. Il attend, il est là. Il sait bien qu'on va l'appeler. Et il affirme, il fait une déclaration à la presse, que devant les événements qui se présentent, je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. Cette fois, c'est fait. Salan a appelé et De Gaulle a répondu présent. À Alger, il faut refaire des manifestations pour De Gaulle et avec les musulmans de la Casbah. Il faut recommencer l'idée de l'intégration, mais l'armée va tout organiser. Sur le forum, le 16 mai 58, ceux qui ratonnaient hier acclament et embrassent les musulmans qui arrivent aujourd'hui.
Oui, pour bien comprendre, il faut revenir un peu au statut qui était au statut précédent le 13 mai, parce que l'Algérie avait un statut particulier où donc il existait deux communautés qui cohabitaient et le principe était que donc ces deux communautés devaient être représentées dans une assemblée qui était l'assemblée algérienne. Bon, il y avait donc deux collèges de votants pour élire cette assemblée algérienne. Et un premier collège qui était celui des Européens, plus de certains indigènes, notamment des anciens combattants, etc., qui s'étaient battus sur les champs de bataille en Italie, en Provence ou ailleurs. Et puis les autres indigènes constituaient le deuxième collège. Or, le président de l'Assemblée était souvent un indigène, c'était par exemple à une époque Abderrahmane Farès, et ce statut particulier, beaucoup d'indigènes voulaient une modification de ce statut, et pas plus. Ils n'étaient pas pour une Algérie algérienne, ils étaient pour une, à l'époque, hein, là, à ce moment-là, ils étaient pour une Algérie française, mais une Algérie française où leurs droits, où ils auraient les mêmes droits que les Européens ou que les anciens combattants, et qu'il n'y ait plus qu'un seul collège. Donc c'était finalement l'intégration. Or, quand ils ont vu que on allait dans ce sens, et notamment que les gaullistes leur disaient qu'on allait aller dans ce sens, ils sont venus. Alors on dit qu'ils ont été amenés par des camions, etc. C'est vrai que souvent les villages du bled, etc. venaient sur le forum, venaient au forum. Donc ils étaient transportés effectivement par des camions militaires. Mais il y a eu quand même un élan du peuple algérien et des musulmans d'Algérie en faveur quand même de cette action et de ce 13 mai, quoi, au niveau de ce 13 mai. Et donc, pour eux, c'était la solution. Hein. C'était l'Algérie algérienne, beaucoup n'y croyaient pas, ou même certains étaient contre la FLN, parce que la FLN, c'était quand même la terreur, hein, c'était la pression qui était menée partout par la terreur, et beaucoup étaient contre. Hein. Alors là, il y avait une solution, il y avait un espoir, hein, on allait enfin reconnaître les droits, leurs droits, comme tous les Algériens allaient avoir les mêmes droits, qu'ils soient européens, qu'ils soient indigènes. Et là, il y en a beaucoup qui ont participé, franchement, à ce 13 mai, quoi.
Oui, c'est vrai qu'ils y croyaient, à l'intégration. Bon, le 17 mai, donc, Soustelle, qui avait donc démissionné, sent subitement qu'il va peut-être avoir une action, il est assez proche de De Gaulle, il revient à Alger, et à Colombey, De Gaulle attend les événements. Et on parle subitement d'une opération menée par des militaires nommée Résurrection. Les troupes sont parachutées sur Paris et en Corse pour prendre le pouvoir, ou pour obliger les politiques. Je l'ai vécu, je m'en souviens bien. Les officiers invitent Salan, le général Salan, à réagir, mais ce dernier n'ose pas, il se sent vraiment piégé. Aller de l'avant, ou c'est quand même un militaire de carrière. Et De Gaulle, qui est informé par ces événements, eh bien, va intervenir pour sauver la situation. Il déclare donc le 27 mai à midi « J'attends des forces terrestres, navales et aériennes qu'elles demeurent fidèles sous les ordres de leur chef, général Salan, amiral Obuano, général Jouot. » On vient de lui enlever l'épine du pied. Salan va recevoir un télégramme personnel du général de Gaulle et le général Dulac est envoyé à Colombey les deux églises pour informer le général de la situation. De Gaulle attend qu'on l'appelle. Et le 29 mai, le président René Coty fait officiellement appel au général de Gaulle. Le 4 juin 1958, de Gaulle arrive à Maison-Blanche, c'est l'aérodrome d'Alger-Maison-Blanche, qui est en tout cas une dizaine de kilomètres d'Alger, avec une caravelle, je m'en souviens, je l'ai vu arriver, on l'attendait depuis le matin. Les militaires sont au coude à coude de l'aérodrome jusqu'à Alger, une haie. Et il est parti de l'Alger, de Maison-Blanche, de l'aérodrome jusqu'à Alger, dans une voiture américaine décapotable, avec cette attitude inimitable, une main sur l'arceau de sécurité, et saluant de droite et de gauche. C'était un moment très émouvant. Et au forum, alors, dès qu'il arrive, c'est l'hystérie. Imaginez ça. On pleure, des femmes s'évanouissent. En plus, il fait chaud, c'est le mois de juin, c'est l'été. Le général est ovationné, c'est le délire, il arrive comme le messie de Gaulle. Hein, il faut avoir vécu ces événements. Bon, nous avions tous des transistors, on était à quelques kilomètres du forum, parce qu'on avait ordre d'y rester jusqu'au soir, mais c'était quelque chose de extraordinaire. On crie « De Gaulle, De Gaulle !» Et subitement, lorsque ce dernier va lever les bras, c'est l'ovation, pire que pour les empereurs romains.
Vous avez compris ? Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. L'armée française a été sur cette terre le ferment, le témoin, et elle est le garant du mouvement qui s'y est développé. Elle a su endiguer le torrent pour en capter l'énergie. Je lui rends hommage. Je lui exprime ma confiance. Je compte sur elle pour aujourd'hui et pour demain. Française à part entière, dans un seul et même collège, nous allons le montrer. Pas plus tard que dans 3 mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider de leur propre destin. Ah, puissent-ils participer en masse à cette immense démonstration, tous ceux de vos villes, de vos douars, de vos plaines, de vos djebels, puissent-ils même y participer, ceux-là qui par désespoir ont cru devoir mener sur ce sol un combat dont je reconnais, moi, qu'il est courageux, car le courage ne manque pas sur la terre d'Algérie, qu'il est courageux, mais qu'il n'en est pas moins cruel.
Voilà, quelques extraits donc de ce discours. On ne peut pas tout passer, malheureusement, mais on reconnaît tout de suite les qualités de tribun du général de Gaulle qui fait son discours et qui sent la foule et qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre aussi. Hein, il faut pas l'oublier, je crois. Hein, il y a quand même.
Oui, là tout le monde trouve son compte. L'armée n'a pas fait la guerre pour rien. Les pieds noirs ont l'Algérie française. Les musulmans ont l'Algérie française, mais avec un seul collège et donc leurs droits qui sont enfin reconnus au même titre que les autres Algériens, que tous les Algériens. Tous les Algériens ont les mêmes droits. Donc tout le monde y retrouve son compte. Et c'est pour ça que ça a un succès phénoménal.
Quoi. Voilà, on est proche d'une solution qui arrange tout le monde. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné ? On va le savoir.
On va le savoir, oui, petit à petit. Et le lendemain, De Gaulle fait un discours à Oran et fait comprendre aux élus que l'Algérie, c'est son problème. Il a dit dans son discours « Moi, De Gaulle », ça veut dire « Moi, la France ». On ne va pas demander aux autres, c'est moi qui vais décider. L'Algérie, c'est l'affaire de De Gaulle. Donc, à Oran, il explique que l'armée est à ses ordres, la révolution s'est terminée, on rentre dans le rang. Les comités de salut public, c'était avant les événements, maintenant, il faut donc renforcer l'unité nationale. Et le 17 septembre 58 au Caire, le FLN tâche de constituer un gouvernement provisoire, le GPRA, président Ferhat Abbas, vice-président Ben Bella, ministre des armées, Krim Belkacem, et puis d'autres ministres. Le 18 septembre, tout de suite après, les délégations se présentent aux dirigeants des pays frères. We'll be right back.
Ce gouvernement du GPRA au Caire, il est reconnu d'une façon internationale, il a eu une certaine légitimité, ou c'était simplement le FLN qui décrétait ça comme ça?
Alors, le FLN décide,
oui.
Et le lendemain, eh bien, on va consulter et présenter le GPRA aux pays frères. Donc, ces derniers n'ont pas le temps de se concerter, ils sont devant le fait accompli. Et au Caire, Nasser fulmine parce qu'il a été averti de rien du tout. Là-dessus, le GPRA ramasse ses billes, abandonne le Caire et va se réfugier à Tunis, où M. Bourguiba les accueille à bras ouverts. Et dans le bled, eh bien, l'armée fait courir des bruits, affirmant que le FLN est infiltré par des bleus de chauffe, les fameux bleus de chauffe qui n'ont plus rien à faire dans la Casbah. On les lance dans les Djebel, dans les Douars, et subitement, le FLN est inquiet. Et on va torturer, on va faire parler, et tout le monde, sous la torture, avoue tout ce qu'on demande d'avouer. Et ça va devenir la fameuse bleuite. Et Ami Rouche, qui est très soupçonneux, sera grand maître à la matière. Il aura un second qui sera appelé, je crois, Yassef la Torture, qui s'occupe de faire parler des gens qui n'ont rien à dire, mais qui disent quand même des choses. Mais dans les villes et dans le bled, l'armée, elle, est devenue une gigantesque machine électorale. On va préparer le référendum pour De Gaulle. Et le 8, qui devra dire à De Gaulle que... on est d'accord avec sa politique sur l'Algérie, et ça va atteindre 96%. Depuis, je ne sais pas si on a fait mieux. Mais en réalité, ces faits-là, amener des djebel, sont illettrés, analphabètes, et ils sont même incapables de comprendre ce qu'on leur demande. J'ai participé à ces élections, je me souviens. Et heureusement qu'on avait mis des enveloppes et donc des documents de couleur pour qu'ils puissent se repérer. Et encore, c'est les militaires, pour ainsi dire, qui ont voté. Hein. Parce qu'ils étaient incapables de comprendre. En plus, ils étaient de l'autre côté, depuis belle lurette, menacés par le FLN.
Alors moi, j'ai peut-être un avis différent, mais j'ai souvenir, par exemple, que certains ouvriers qui travaillaient à la ferme de mon père étaient venus demander, justement, de se faire préciser quelle était la couleur pour De Gaulle, et quelle était la couleur contre De Gaulle. Alors bon, peut-être qu'effectivement, après, il y a eu dans d'autres secteurs, où il y a eu peut-être des choses, comme raconte Jean Glacé, mais il y en a qui ont voté en connaissance de cause quand même.
Oui, il a sûrement raison, mais je pense que dans la Mitidja, c'était les plus évolués. Quand on a cherché les gars dans les Aurès, au fin fond des Djebel, dans des endroits complètement perdus, ils ne savaient pas ce qu'on leur demandait en réalité. Et c'était surtout les militaires qui ont guidé la main. Hein, moi, je me souviens, ils arrivaient avec femmes, enfants, les chèvres, etc. On descendait tout le monde. Ils étaient en file inquiets, d'ailleurs, parce qu'ils étaient inquiets. Et puis, il fallait des interprètes, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne parlaient pas un mot de français. Il fallait donc des interprètes pour leur transmettre les consignes. Et donc, on va obtenir ces 96%. Mais les résultats seront ce qu'ils sont, et De Gaulle va donc organiser un nouveau voyage en Algérie, et le 3 octobre à Constantine, il va parler de ce fameux plan de Constantine étalé sur 5 ans, avec l'entrée, comme disait Christophe Aumont tout à l'heure, des musulmans dans les administrations en Algérie et en métropole, avec la création de 400 000 emplois pour les musulmans. C'est quelque chose. Il y en a qui sont devenus français de cette époque-là, qui sont venus en France avec ce fameux plan de Constantine. Et l'augmentation des salaires qui seront alignés sur les salaires des Européens, parce que c'est vrai qu'on en était loin à l'époque. Je me souviens qu'il y avait une expression qui disait « faire suer le burnou », quand on parlait des fellahs qui travaillaient dans les grandes plantations. Et donc, on va effectivement essayer de scolariser les enfants et créer des logements sociaux pour tous ces gens. Et à Alger, le général Salan va recevoir une lettre de De Gaulle, après ce second voyage en Algérie, où il est stipulé, c'est à peu près ceci, le moment est venu où les militaires doivent cesser leur appartenance à des mouvements ayant un caractère politique. On voit tout de suite à qui ça s'adresse. Et je suggère qu'ils s'en retirent sans délai, sont les termes de la lettre. Massu et ses officiers, Bijard, Jean-Pierre, etc., des comités de salut public, regagnent le rang. Les civils fulminent parce qu'ils se rendent compte que, eh bien, le temps des désenchantements est arrivé. Car s'il n'y a plus l'armée, ils ne peuvent plus rien contre De Gaulle ou contre le gouvernement. Et à ce moment-là, l'avenir de l'Algérie s'annonce sur de mauvais augures. Eh bien, la suite, ça sera la prochaine fois, ça sera le putsch, où on va voir les généraux dits félons essayer de prendre le pouvoir en Algérie pour s'opposer au général de Gaulle et au gouvernement de la métropole.
Ainsi s'achève cette rétrospective radiophonique sur la guerre d'Algérie. Merci à Gilles et Jean Glasset de raviver une mémoire si souvent perdue. Vous pouvez retrouver la série sur la guerre d'Algérie au complet sur notre site internet à l'onglet de l'émission Archive. Salut à tous et au mois prochain pour une nouvelle archive qui va débobiner.
Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archives.